Petite vie de Saint Ignace de Loyola, un contemplatif dans l'action, le fondateur des Jésuites. Un ouvrage du père jésuite Albert Longchamp, paru aux éditions Artege Poche. Une lecture proposée par Maïté Iratsoki.
Chapitre 4. Sous l'étendard du Christ. La compagnie de Jésus n'est pas née à Montmartre, mais les premiers compagnons ont tous gardé la conviction qu'elle n'aurait jamais vu le jour sans les amitiés parisiennes. C'est à Paris qu'apparaît pour la première fois la mention du pape dans le dispositif ignatien. L'objectif premier est toujours d'aller à Jérusalem sur les pas de Jésus. Ignace n'en démord pas, mais à défaut, ils iront vers le vicaire du Christ. C'est la voie la plus sûre. Elle sera le germe de l'une des caractéristiques les plus originales de la compagnie, le vœu spécial d'obéissance au pape. À l'arrière-plan du double engagement des compagnons, sous l'étendard du Christ, notre souverain capitaine et seigneur, et sous l'obéissance à son vicaire, le pape qui est à Rome, il est aisé de percevoir une réponse au trouble du Paris des années 1530-1535, dont le climat politico-religieux manifeste des signes inquiétants de surchauffe. Novateurs et traditionalistes s'y affrontent presque journellement. Entre protestants et papistes, les luttes d'influence sortent bientôt de l'enclos universitaire pour descendre dans la rue. Durant la nuit, du 17 au 18 octobre 1534, les murs de Paris se couvrent de placards contre le sacrifice de la messe. La cité est en émoi. La répression royale est féroce. Certains hérétiques sont condamnés au bûcher après d'atroces tortures. Les compagnons sont discrets pendant cette période. Plongés dans leurs études, ils ne semblent guère affectés par les turbulences extérieures. L'impression est trompeuse. Nous savons par une lettre de François Xavier, transmise par Ignace à sa parenté, quel a été le résultat de l'affaire des placards sur le futur apôtre des Indes. Citation. Maintenant que l'hérésie est démasquée à Paris, je ne voudrais pour rien au monde avoir été lié à ceux qui la partagent. Pour cette seule raison, j'ai envers Inigo une dette qu'il m'est impossible d'acquitter. Il m'a préservé de compagnons extérieurement irréprochables, mais dont l'âme cachait des hérésies, ainsi qu'on le sait maintenant. Fin de citation. François parle de récentes découvertes. À vrai dire, la Sorbonne a déjà condamné les œuvres de Luther en 1521. Ce qui n'empêche pas ses idées de circuler largement, tandis que celles de Calvin pénètrent jusque dans les hautes sphères universitaires. L'évêque de Meaux, quelques années plus tard, se plaint amèrement de l'attitude des colporteurs de la nouvelle pensée à l'égard de son troupeau. Il ne leur suffit plus de détester l'idolâtrie, il faut abattre les idoles. Servir l'Évangile, c'est le dresser contre l'Église. Ce contexte éclaire les règles des exercices pour avoir le vrai sens qui doit être le nôtre dans l'Église militante. Ces règles datent sans doute de l'époque parisienne de Ignace. Elles reflètent les débats qui agitent l'Europe des réformes luthériennes et calvinistes. La règle 15 est explicite. Nous ne devons pas habituellement parler beaucoup de la prédestination. Ce chapitre de la foi était, on le sait, l'un des sujets de prédilection de l'enseignement de Calvin. La 11e règle précise les bons auteurs à consulter. Saint Jérôme, Saint Augustin, Saint Grégoire sont propres à mouvoir les sentiments pour aimer et servir en tout Dieu notre Seigneur. Et c'est, citation, le propre des scolastiques, par exemple Saint Thomas, Saint Bonaventure et le maître des sentences, Pierre Lombard, etc., de définir ou d'expliquer pour notre époque les choses nécessaires au salut éternel, et pour mieux réfuter et expliquer toutes les erreurs et tous les sophismes. Fin de citation. Mais Ignace, avec ses bons conseils, est-il vraiment au-dessus de tout soupçon ? Des rumeurs courent sur son compte, il le sait, et déteste ces situations ambiguës. Un certain parfum d'hérésie serait d'autant plus malvenu qu'il compte se rendre en Espagne pour régler ses affaires personnelles et celles des compagnons. L'Inquisition, moins acharnée qu'en Espagne, veille aussi à Paris, où la tâche ne manque pas. Voyant qu'il n'est pas convoqué, Ignace décide de casser le morceau. Il va de lui-même trouver l'inquisiteur parisien, le dominicain Valentin Liévin, et lui demande une sentence en bonne et due forme. L'inquisiteur le rassure. Oui, des plaintes sont bien déposées contre Ignace, mais il n'a pris aucune mesure car la chose est sans importance. L'inquisiteur demande cependant à lire le manuscrit des exercices. Ignace le lui tend. Liévin parcourt le livre et demande une copie. Flatteur. Mais Ignace, obstiné et prudent, sait qu'une approbation orale n'aura aucune valeur s'il doit se présenter un jour devant des autorités ecclésiastiques moins débonnaires. L'inquisiteur se dérobe. Le lendemain, Ignace revient chez le dominicain. Il est accompagné cette fois d'un greffier qui prend acte, officiellement, du satisfecit de l'Inquisition. Affaire classée. Au début de l'année 1535, Ignace est gravement malade. Il souffre de ce qu'il appelle ses maux d'estomac. L'autopsie révélera après sa mort des calculs biliaires. Au bout de leur science, les médecins accusent le climat parisien et proposent une cure d'air natal. Une autre raison, peut-être plus déterminante, pousse Ignace à rentrer au pays. Tout en restaurant sa santé, il visitera les familles des compagnons espagnols qui, eux, ne se sentent peut-être pas assez certains de pouvoir résister aux aimables pressions familiales. Enfin, Ignace n'a pas oublié ses frasques d'antan. Au village d'Aspeitia, il doit réparer ses erreurs de jeunesse. Tout milite donc pour un voyage en Espagne. Les compagnons sont soudés par les engagements de Montmartre. Ils fixent au 25 janvier 1537 le rendez-vous à Venise, qui préparera le départ en Terre Sainte. Vers la fin mars ou le début d'avril 1535, avec l'émotion qu'on imagine, Ignace prend congé du groupe. Comme le note l'un de ses biographes, il était resté à l'ancre à Paris pendant 7 ans et 2 mois. Une fois de plus, il prend le large pour la vaste mer du monde. Monté sur un petit cheval, que ses amis se sont cotisés en secret pour lui acheter, il emporte quelques livres, le précieux manuscrit des exercices et s'engage sur la route de Compostelle. 800 kilomètres le séparent de Loyola. À peine parti, ses douleurs diminuent. Le pèlerin mérite bien ce petit coup de pouce de la grâce d'État.
Petite vie de Saint Ignace de Loyola, un contemplatif dans l'action, le fondateur des Jésuites. Un ouvrage du père jésuite Albert Longchamp paru aux éditions Artege Poche. Une lecture proposée par Maïté Iratsoki.